Bienvenue à vous depuis l'espace Grand Paris. On est ensemble jusque 17h aujourd'hui pour cette dernière journée du Phare FM Paris Tour, en tournée avec notre Living Bus partout dans Paris, dans l'agglomération parisienne. Et donc ici à l'espace Grand Paris à Créteil, un espace multiculturel sur lequel nous rencontrons sur ce plateau des invités qui présentent des projets, d'associations, des actions aussi liées aux Jeux Olympiques notamment. Elle vient de me rejoindre sur ce plateau, c'est Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Vous êtes membre des Porteurs d'Espoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein des Porteurs d'Espoir ?
Alors, je suis présidente et fondatrice de l'association Porteurs d'Espoir. On a démarré il y a 20 ans. On va les fêter très bientôt. En découvrant en fait, des situations vulnérables dans Paris, notamment auprès des enfants et des familles qui étaient réfugiées. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Mais on a commencé des actions avec eux et puis aujourd'hui on est dans le 17e, donc rue Berzélus, et on agit donc particulièrement vers les familles en situation de vulnérabilité avec des enfants et aussi donc envers des personnes victimes de traite humaine.
Et avec différentes actions que vous mettez en place régulièrement ?
Alors nous avons des activités régulières, bien sûr, nous faisons des grands événements pour les enfants, donc des fêtes, hein, parce que les enfants, on aime bien faire la fête, on aime bien jouer, donc on fait des événements à grande échelle, notamment à Noël, à Pâques, et puis pendant toute l'année, on accompagne les familles, on essaye d'apporter un soutien particulier toujours aux enfants, aux adolescents. Là, on envoie quelques-uns en vacances, en camp de vacances au Térébinthe, et puis aussi, je crois, avec l'AE. Donc ça nous permet aussi de les envoyer, avoir des temps en dehors de la ville et des quatre murs des hôtels où ils sont logés. Donc voilà, puis aussi donc, toute l'année, nous distribuons des colis alimentaires, on accompagne les personnes dans l'écoute, on les amène aussi à réfléchir sur le sens de la vie, et notamment donc, des personnes qui sont aussi donc, dans l'exploitation.
Ça fait 20 ans maintenant hein, que vous menez ces actions-là. Bel anniversaire à vous d'ailleurs. Hein. C'est une belle année, 20 ans.
Donc ça sera le 30 novembre.
Le 30 novembre, il ne faut pas manquer cet événement alors avec vous. Et vous avez des actions, notamment Green P17 pour les Jeux Olympiques. Vous permettez à des enfants, c'est ça, de pouvoir faire une activité.
Alors nous avons plusieurs activités. On a un renfort qui vient du Mexique. Donc on va avoir des Mexicains avec nous qui vont arriver, donc je crois que c'est mercredi. Et ensuite, donc, on a une succession d'événements. Donc on a obtenu l'autorisation de faire un street golf.
Et on va faire un golf dans la rue.
Voilà, un golf dans la rue. On va démarrer au parc Ernest Gouin dans le 17e. Et puis on ira jusqu'à notre association, qui n'est pas très loin, avec différents trous, chaque trou correspondant à un droit de l'enfant. Et nous finirons donc par une exposition concernant le trafic humain, avec également donc le 10e trou qui est que les enfants ont droit de ne pas être exploités, même si c'est un devoir.
Ça va se dérouler quand, ces actions-là ?
Ça va se dérouler le samedi 3 août, donc ça sera pendant toute la journée. Alors il faut s'inscrire évidemment parce que bon, on a peur d'être débordé ou voilà, pour qu'il y ait du monde quand même. Tout le monde est autorisé à partir de 6 ans.
C'est ouvert à tous ?
Oui, vous parlez des enfants mais aussi les adultes ont le droit de jouer et de faire équipe avec leur famille, pourquoi pas.
À 9 trous qui vont symboliser, vous me disiez avant, les droits de l'enfant.
Oui.
On peut les nommer peut-être ? Alors, les droits fondamentaux de l'enfant.
Les droits fondamentaux de l'enfant, c'est déjà d'avoir une identité en premier, puisque beaucoup n'ont pas de papier. Hein, des fois, on arrive en France et puis on ne sait pas trop comment on va vivre. On a aussi donc, le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation, le droit de la liberté de penser et de penser et de croire aussi. On a le droit d'avoir une famille, d'être entouré. Ce sont les droits que nous mettons en avant, donc d'avoir un refuge, d'être secouru, le droit d'aller à l'école, le droit aussi d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Il faut savoir que bon, il y a des familles aussi en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des fois, les enfants vont à l'école sans avoir pris de petit déjeuner ou vont pas dîner. Donc, on est conscient de tout ça. On a le droit aussi de s'amuser. Ça fait partie des droits de l'enfant.
C'est vrai.
On a le droit d'avoir des loisirs, donc des fois les parents ne comprennent pas que les enfants aient besoin d'aller dans certains endroits, d'avoir des loisirs, ça fait partie du jeu aussi. Et aussi bien sûr tout ce qui est la maladie, hein, d'être protégé, d'être soigné. Il y a beaucoup d'enfants, de familles qui viennent en France, des personnes qui sont dans la traite humaine, qui ont besoin de soins et qui ne les ont pas dans leur pays, donc ils arrivent en France. Il y a le droit, bien sûr, de ne pas subir la guerre. Il y a beaucoup de familles, d'enfants qui arrivent en France parce qu'il y a eu la guerre dans leur pays. Et du coup, ils arrivent ici. Dans un pays où ils doivent vivre la paix, ce n'est pas toujours une paix certaine. Mais en tout cas, on y travaille et on espère que dans le parcours qu'ils font ici dans notre pays, ils découvrent non seulement la paix, on va dire physiquement, mais aussi intérieurement.
Il est important de parler de l'état des lieux en 2022. C'est plus de 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et ça ne cesse d'augmenter, puisque bon, la précarité, tout le monde le sait, tout le monde l'a subi. C'est aussi, ça touche les enfants en particulier. On parle de 3 millions, mais ce sont des chiffres approximatifs.
On parle aussi de 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire aujourd'hui.
Oui, et ces chiffres ne cessent d'augmenter.
Également. Et entre 7 000 et 10 000 d'ailleurs sont mineurs, se prostituent aussi.
Tout à fait. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont évidemment à la baisse, parce qu'on sait qu'à travers les réseaux sociaux, les chiffres sont multipliés. Et c'est un fléau non seulement, en France, mais international. La période des JO est la période où il y a le plus d'exploitation. Il faut le savoir que pendant les JO, c'est là où il y a le plus de gens, d'exploitation aussi bien au niveau des personnes que des exploiteurs qui viennent chercher des jeunes pour les mettre à leur service.
À partir du 3 août, vous lancez une série d'actions avec le parcours de golf de 9 trous dans le 17e arrondissement, là, près de vos locaux, l'association Porteur d'Espoir. Et vous nous disiez qu'il y a également un goûter qui est organisé le dimanche 4 août, 25 rue de Berzelius. Je le prononce bien, ça va ?
Berzelius, ça va, il n'y a pas le 2.
D'accord, 25 rue Berzelius dans le 17e arrondissement. Un goûter un peu particulier avec un témoignage qui sera partagé.
Oui, alors ça va être un goûter, une histoire. Donc vous pouvez venir, je vous invite tous à venir. C'est dans le 17e, c'est accessible. Et ça va être l'histoire donc, de Bernadette. Bernadette qui était victime de traite humaine. Donc elle va voyager de Lyon pour nous la raconter, son histoire. Elle vient du Cameroun. Elle est exploitée par sa famille. Elle a dû se prostituer. Et pour s'en sortir, un jour elle a croisé quelqu'un dans la rue qui lui a parlé de l'évangile. Et elle a décidé de couper court à cette situation et de trouver une autre solution. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le chemin de la liberté.
Waouh, il faut venir découvrir cette histoire le dimanche 4 août. Un goûter pour tout le monde, toute la famille est le bienvenu. Ça sera adapté aussi pour des plus petits ou peut-être pas trop ?
C'est ouvert.
On
adopte, tout le monde est bienvenu et puis on pourra toujours raconter l'histoire à la portée des enfants.
Et il y a également d'autres actions que vous mettez en place avec des lunettes réalité virtuelle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors ça, c'est une réalité qui vient du Mexique avec l'équipe de Pozo de Vida, qui est une association, une ONG qui travaille auprès des personnes victimes de traite humaine et qui ont des maisons-refuges. Et eux, ils viennent donc pour sensibiliser la population par rapport à cette situation, par rapport à cette tragédie qui existe. Il y a des millions de personnes qui sont dans l'exploitation, aussi bien esclaves domestiques qu'esclaves sexuels, ce qui est beaucoup le cas dans notre pays. Et du coup, ils vont venir avec leurs lunettes pour sensibiliser. À travers ces lunettes-là, on verra des petits reportages de 2 à 5 minutes. Et les personnes pourront regarder. Après, on pourra répondre aux questions et les sensibiliser aussi, les inviter à venir tendre la main ou en tout cas se former pour ces situations-là.
C'est beaucoup de choses à découvrir, difficiles aussi, des situations difficiles et d'entrer comme ça, d'immerger pleinement. Vous avez pu faire l'expérience peut-être, vous, de la réalité virtuelle avec les lunettes ? Pas encore.
Vous allez
découvrir avec tout le monde.
C'est ça, elles arrivent mercredi, je vais me jeter dessus pour voir comment ça marche.
Ça a l'air incroyable, avec également des distributions, il me semble, qui sont prévues aussi tout au long de ces actions, durant ces jours.
Alors nous faisons des distributions de nourriture régulière, on fait ça toutes les semaines, donc pour les personnes qui sont dans le besoin, aussi bien les familles que les personnes victimes de traite. Donc on est un point d'accueil, c'est des personnes qui sont enregistrées, connues, reconnues de nos équipes et qui viennent régulièrement. Bon, après, les personnes qui sont dans le besoin, on considère qu'ils ont aussi bien des besoins qui sont physiques, matériels que spirituels. Et on est là pour tendre la main dans la portée, dans la mesure de ce qu'on peut. de ce qu'on peut faire. Bon, les JO, c'est plus un moment de partage, d'amitié. On veut ça vraiment de façon plus ludique. En tout cas, nous allons faire un repas particulier. Donc, il va être privé pour les personnes victimes de traite, pour les honorer, pour passer un temps avec eux, pour leur dire qu'ils peuvent devenir libres, en fait, et aussi pour qu'ils soient conscients de leur situation, parce que souvent, ils ne le sont pas. Et on va passer ce temps-là aussi dans le 17e, dans un endroit qu'on a prévu pour eux et pour un bon repas à la française.
Waouh ! C'est combien de personnes que vous soutenez au quotidien, chaque semaine ?
Chaque semaine, nous distribuons environ 30 colis, ce qui représente à peu près par mois, on va dire, une cinquantaine de familles, et ce qui représente en tout à peu près, avec les enfants compris, entre 300 personnes à peu près.
Voilà. Waouh ! Durant, on vous
ça,
souhaite...
c'est toute l'année. Hein.
C'est toute l'année. Et du coup, durant ces Jeux Olympiques, du coup, vous mobilisez ensemble avec votre équipe ces actions. On retrouve toutes les actions que vous mettez en place sur votre site internet, j'imagine.
Vous imaginez pas très bien, parce que non, pas du tout.
D'accord.
Mais sur
on peut
les
quand
réseaux...
même se rendre sur votre site, sur porteurdespoir.com.
Oui, et nous suivre sur Instagram. On a beaucoup plus nos actus sur Insta et sur Facebook.
Porteur d'espoir sur Instagram, allez les découvrir. Un grand merci à vous pour de nous avoir partagé les différentes actions que vous mettez en place, Elisabeth.
Merci pour l'invitation.
Un grand plaisir et bons Jeux Olympiques.
Merci, on est prêts.